Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En octobre 2002, l'élection à la présidence du Brésil de l'ancien leader syndical Luiz Inácio Lula da Silva suscite une vague d'espoir immense, et ce bien au-delà des frontières de ce pays, dans toute l'Amérique du Sud et dans le monde entier. L'élection de Lula est plus qu'un symbole, c'est une révolution qui doit enfin permettre aux plus pauvres d'avoir voix au chapitre dans ce pays parmi les plus inégalitaires du monde. Réélu pour un second mandat en 2006, Lula ne peut plus se représenter en 2010 et laisse la place à sa ministre Dilma Rousseff. Le bilan de Lula est bon, et même très bon. Sous sa présidence, le nombre de pauvres a baissé significativement. Les politiques de santé, notamment de vaccination des jeunes enfants, ont pu être menées à bien, jusque dans des zones où l'État était auparavant peu présent. L'économie du pays, basée sur l'exportation de matières premières, a profité à plein de la demande asiatique. Oui, mais voilà, cet alignement de planètes tout à fait exceptionnel se dissipe à la fin des années 2000. La conjoncture internationale se dégrade, la demande de l'Asie marque le pas et l'économie du Brésil est touchée à son tour par les effets de la crise. Au passage, le pays s'aperçoit que ses vieux problèmes structurels sont toujours là, à commencer par la corruption. Et à l'heure du passage de témoin à Dilma Rousseff, des voix commencent à se faire entendre pour questionner les grandes orientations de la présidence qui s'achève. Le bilan du miracle Lula, c'est le sujet de cette émission, un magazine de la rédaction de France Culture, diffusé pour la première fois le 2 octobre 2010.
On le voit partout sur les affiches de campagne, il bénéficie encore de 80% d'opinions favorables. Et pourtant, Lula, le président brésilien, va devoir passer la main, puisqu'après 2 mandats à la tête du pays, il n'a pas le droit de se représenter. En 8 ans, cet ex-syndicaliste, ex-meneur des grèves contre la dictature, fondateur du Parti des Travailleurs, a fait faire au Brésil un bond spectaculaire. Des millions de Brésiliens sont sortis de la misère, le pays est la 8e puissance économique du monde. Malgré cela, eh bien, le Brésil reste encore l'un des pays les plus inégalitaires et les plus violents de la planète. 2 invités ce soir pour évoquer le Brésil à la veille de la présidentielle. En direct de Brasilia, Annie Gasnier, correspondante de Radio France depuis 17 ans. Bonsoir Annie.
Bonsoir.
Et avec nous dans ce studio, Stéphane Monclerc. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, spécialiste de l'Amérique latine, maître de conférences à l'université Paris 1 Sorbonne. Alors, juste un mot avant d'écouter et de commenter le reportage de Marie-Pierre Véraud au Brésil. Demain, ça ne sera donc plus Lula, mais très certainement Dilma, sa dauphine, une ex-guérillera qui est donnée largement favorite. L'opposition social-démocrate n'a donc vraiment aucune chance, Annie Gasnier ?
Écoutez, on va peut-être laisser la parole aux électeurs, aux Brésiliens qui décideront demain. Qui sait s'ils décideraient au dernier instant d'une surprise. Mais c'est vrai que les derniers sondages, pratiquement jusqu'au dernier moment, donnent Dilma Rousseff largement en tête de cette élection sur José Serra, donc l'ancien gouverneur de Sao Paulo. Elle pourrait donc même être élue au premier tour. Mais il est bon de rester prudent parce qu'en 2006, ces mêmes instituts de sondage avaient donné Lula réélu dès le premier tour, et pour à peine plus d'un pour cent, il avait fallu attendre le deuxième tour. Donc il vaut mieux attendre, et à cette époque-là, Lula n'avait pas 80% d'approbation. Là, il les a mis au service de Dilma, justement.
Stéphane Monclerc, vous faites preuve de prudence, vous aussi ?
Je serais moins prudent dans la mesure où en 2006, Lula perdait 1 500 000 voix tous les 3-4 jours. Il y avait une nette érosion qui ne s'était pas arrêtée à la veille du scrutin. La baisse enregistrée par Dilma la semaine dernière s'est arrêtée sur la base de plusieurs sondages publiés ou non publiés. Je pense qu'elle devrait demain faire à peu près 52 à 53% des suffrages exprimés.
Alors, pour comprendre le succès du lulisme, voici donc le reportage de Marie-Pierre Véraud. Vous revenez du Brésil, Marie-Pierre, vous êtes allée notamment dans des favelas pacifiées. On traduit favelas par bidonville, mais c'est tout de même aller un petit peu vite en besogne.
Ah bah oui, c'est vrai que l'on devrait plutôt parler de quartiers populaires, hein, notamment à Rio, car par exemple, une grande partie des gens qui habitent ces favelas sont en fait de petits employés de maison ou de bureaux, des ouvriers, des gens qui travaillent et qui sont insérés dans la société, mais qui n'ont pas les moyens d'aller habiter ailleurs dans la ville. Alors, ces favelas favelas pacifiées, elles sont montrées comme une vitrine. Hein. L'objectif du gouverneur de Rio, qui est soutenu par le gouvernement Lula, c'est d'en finir avec la loi des narcotrafiquants qui règne sur ces immenses quartiers. La tâche est énorme sur le millier de favelas que compte Rio. 12 seulement, pour l'instant, comptent des UPP, des unités de police pacificatrices. Alors là, nous sommes à Santa Marta, la première des favelas de Rio, pacifiée voici 2 ans. Le commando Vermelho, le commando rouge, l'un des 3 principaux gangs de la ville qui faisait régner la terreur, n'est désormais plus qu'un souvenir. Et l'on peut même visiter cette favela, des pliants touristiques en main, pour découvrir notamment la place où Michael Jackson avait tourné un clip et où s'élève désormais sa statue. C'est l'un des musts, d'ailleurs, de la visite de Dona Marta. Et c'est là que nous retrouvons l'un des tout nouveaux guides.
Meu nome é Leandro, tenho 25 anos, sou morador nascido e criado na comunidade.
Je m'appelle Leandro, j'ai 25 ans et je travaille dans ce projet moi aussi, ce projet de l'office de tourisme. Je fais le guide dans la favela. Avant, c'était difficile ici. Il y avait les trafiquants, le risque d'une balle perdue. Mais aujourd'hui, non, c'est terminé. Tout a changé. Nos enfants peuvent jouer normalement dans la rue. Avant, ils jouaient, oui, mais avec la peur, toujours. Il fallait faire attention, ils ne pouvaient pas sortir comme ils voulaient. Parfois, ils devaient rester enfermés dans les maisons. Et maintenant, on entre, on sort comme on veut, dans la favela, tranquillement. Avant, le problème, c'est qu'il y avait des gens armés qui circulaient. Il y avait toujours le risque d'une balle perdue. Il y avait les guetteurs. Maintenant, on est beaucoup mieux et on souhaite continuer comme ça.
Nous grimpons à présent dans un dédale de ruelles en pente raide vers le quartier général de l'UPP, l'unité de police pacificatrice. Symboliquement, les policiers se sont installés dans le QG du gang, tout en haut de la colline, où s'accrochent les maisons et d'où l'on découvre la baie de Rio. Du bâtiment s'échappent des accords de violon. Les habitants peuvent en effet venir s'initier à la musique ou prendre des cours de karaté avec l'un des policiers. L'unité est dirigée par le major Priscilla.
D'abord, il y a eu la période de pacification qui a duré 2 mois. C'est la police du bataillon d'ici qui s'en est chargée avec 2 bataillons spécialisés, dont celui du BOP, les forces spéciales accompagnées de chiens. Il y a eu de nombreux policiers impliqués dans les opérations. Ils se succédaient jour et nuit. Il y a eu des affrontements, beaucoup. Nous avons arrêté 9 trafiquants, chefs de gang. Et il y a eu des morts.
Donc maintenant, aujourd'hui, hein, il y a cette unité de police pacificatrice. Est-ce que vous pouvez nous dire combien ils sont et en quoi consiste leur travail ?
Aujourd'hui, les effectifs varient un peu, mais nous sommes actuellement 117 policiers.
Et notre travail ici,
notre premier rôle, c'est celui de police militaire, comme dans n'importe quel autre quartier. Mais en plus, depuis 2 ans, que l'on est ici 24 heures sur 24, on a appris à connaître les habitants, on connaît beaucoup de monde, et on travaille en collaboration avec les pouvoirs publics. On est devenu une sorte de relais de l'État auprès des habitants de la favela. Juste ça ? Ça a un peu changé leur vie. Il y a eu des améliorations au niveau de l'habitat, les rues, les façades, mais aussi la possibilité d'avoir des emplois temporaires, des cours de qualification ou de formation professionnelle. Et maintenant, même des entreprises privées et d'autres organismes nous contactent pour entrer dans la favela avec des projets d'éducation et de culture.
Justement, il y a toute une économie hein, ici qui était générée par les trafiquants, par l'économie de la favela, les commerces ou les bars. On a observé dans certaines des favelas pacifiées une recrudescence des activités criminelles après la pacification, parce que justement, il n'y avait plus tout ce tissu économique qui était sous-tendu par le trafic de drogue. Alors ici, est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé et comment lutter contre ça, justement ?
Oui, le gouvernement a pensé à tout cela et a organisé tout un programme. Parce que, avant, bien évidemment, ce sont ceux qui étaient ici, les trafiquants et les dealers, qui générait un revenu pour les commerces. L'argent qu'ils gagnaient, ils le dépensaient là, dans les bars. Mais ça a changé et c'est pourquoi l'État a eu ce projet de tourisme, ici, dans cette favela. Il s'agit de stimuler les petits commerçants et de leur apprendre à s'adapter à la venue des touristes et à un autre type de clientèle. Parce qu'avant, les clients qu'on voyait, tous ceux qui vivaient du trafic, qu'est-ce qu'ils buvaient? Surtout des bières, de la cachaça. Aujourd'hui, avec le nouveau public, celui des touristes, qui boivent quoi? Des boissons fraîches, des sodas, des petites bières. Les commerçants doivent s'adapter et ils pourront alors faire de nouveau des affaires. Donc, ce que fait l'État, c'est stimuler les commerçants en leur apprenant à gérer cette nouvelle situation.
Changement de décor dans cette favela du Nord, Vigario Girao. Les gangs sont toujours là et il faut se faire annoncer afin d'éviter tout problème avec les trafiquants. C'est une ONG, Afro Reggae, installée là depuis 1993 sur la zone de front entre deux gangs qui nous ouvre les portes. Son objectif ? Être là où ni l'État ni la police militaire ne sont présents et offrir aux habitants des projets culturels, musique, théâtre pour sortir de la violence et de la misère. Eve Bélanger y est chargée des partenariats internationaux. Elle porte un regard mesuré sur les UPP.
Encore jusqu'à maintenant, oui, c'est inacceptable que des endroits de la ville soient occupés par des groupes armés. Mais avec ces polices pacificatrices-là, on ne leur donne pas encore les mêmes droits que les autres résidents qui habitent dans les quartiers planifiés, organisés de la ville. C'est-à-dire, pour peu importe ce qu'ils veulent faire, ils doivent demander la permission de la police, ne serait-ce que pour faire une petite fête à la maison, inviter des amis. Si ça fait trop de bruit, il faut demander... Chose qui n'est pas demandée aux autres résidents de la ville. Les jeunes aussi sont cibles de persécution, c'est-à-dire d'être soupçonnés parce que, en fait, oui, on a réussi à désarmer, en fait. Mais il existe toujours le trafic de drogue. Donc, c'est pas parfait. Je pense que c'est une bonne initiative. Il y a quelque chose qui doit être fait. Il faut que ce soit fait avec d'autres politiques publiques.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, juste pour donner un exemple, les gens travaillent en moyenne, malgré que les normes du travail sont de 9 heures, travaillent en moyenne 12 heures par jour. Les gens mettent un minimum d'une heure et demie pour se rendre au travail. Et c'est ce qui fait que, avec seulement 4 heures d'école par jour, ben, on a un tas de jeunes qui sont livrés eux-mêmes durant plus de 10 heures. Donc juste ça, oui, on enlève le narcotrafic, mais qu'est-ce que ces jeunes-là vont faire pendant ce temps-là? On n'a pas d'activité, on n'a pas non plus assez de formation technique. Les salaires minimums ne te permettent pas non plus de subvenir à tes besoins. Donc tant que toutes ces choses-là ne changeront pas, on n'a pas de garderie non plus, donc les femmes ne peuvent pas aller travailler, c'est-à-dire sans se préoccuper. Donc tant qu'on n'aura pas ça qui vont venir avec les polices pacificatrices, bien, ce sera difficile de régler le problème. Et puis sans oublier que le narcotrafic représente une activité économique dans la favela. Et puis dès que tu enlèves cette activité économique, eh bien, les vols autour de la favela augmentent. Ou si ces jeunes-là qui s'éparpillent du narcotrafic, eh bien, ils s'en vont ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne fait que repousser le problème. Et la majorité des communautés qui ont été pacifiées, c'est des communautés, des favelas qui sont ici, dans la zone plus riche, le centre-ville, la zone sud. On en a, oui, dans la zone est, comme Cité de Dieu, mais c'est parce que déjà là-bas, il y a une grande ONG, la centrale unique des favelas. Donc on voit vraiment qu'on veut comme embellir la ville. On la prépare pour la Coupe du Monde, pour les Jeux Olympiques. Et puis on fait que repousser le problème, là, c'est-à-dire le cacher, quoi, pour pas qu'il soit aussi visible qu'il est en ce moment.
Lula a beau assurer de son intention d'étendre ses opérations à l'ensemble du pays et de faire disparaître le terme de favela du vocabulaire brésilien, il est encore trop tôt pour dresser un bilan de ses opérations en matière de sécurité, et ce dans un pays où 50 000 personnes meurent toujours de morts violentes chaque année, une statistique digne d'un pays en guerre. Il est en revanche une initiative du gouvernement, Lula, qui a profondément changé la vie de millions de Brésiliens. Dans les favelas des grandes villes, comme dans les villages et les zones les plus reculées d'Amazonie, c'est la Bourse Famille, une allocation versée aux plus déshérités, dont le montant varie en fonction du nombre d'enfants, à condition qu'ils soient scolarisés et aient leur carnet de vaccination à jour. 12 millions de familles en bénéficient. La mesure a sorti des cohortes de Brésiliens de la misère et contribue à gonfler les rangs de la classe moyenne. C'est dans le Nord-Est et l'une des provinces les plus pauvres que l'on trouve le plus grand nombre de bénéficiaires. Ces femmes, par exemple, que nous sommes allées rencontrer sous la conduite de notre interprète Alder, dans une coopérative de recyclage de déchets à une centaine de kilomètres de Récif. Alors, est-ce que ça a changé un petit peu la vie, cette bourse famille? On dit que c'est la grande mesure du gouvernement Lula. Hein.
Si, si. Sí, con certeza. Sí. Mejoró mucho para mí.
Oui, elle a bien amélioré notre vie.
Ah, sí, mejoró mi renta, ¿no? Yo pego el dinero y compro alimentación para mis cuatro hijos.
J'ai plein de l'argent y achète des aliments pour les fils.
Y material escolar.
Le matériel scolaire aussi.
Avant, elle ne pouvait pas acheter ce matériel scolaire et c'est.
Ah, era mucho difícil.
C'était très difficile.
Verdade. Un peu compliqué, né?
C'était bien compliqué.
Aí a gente vê que, né, aquelas crianças que estavam na rua.
Aí, ces enfants qui étaient dans la rue.
Agora estão num colégio.
Maintenant sont à l'école.
A gente percebe também assim.
Pessoal,
no comentário, né, das famílias que melhorou.
Les familles toutes disent que ça a bien amélioré.
Rapaz, a sua família mudou muito porque agora eu tenho condição de pagar meu gás, tenho condição de pagar minha luz.
Que
antigamente eu não tinha.
Gás, la lumière, et auparavant, je n'en avais pas.
Est-ce que ça veut dire qu'avant, vous n'aviez pas d'électricité, vous n'aviez pas de lumière ni de gaz chez vous?
Non, on podia pagar, né? Mas agora.
Je ne pouvais pas payer.
Melhorou muito.
Beaucoup, beaucoup.
Ah, meu, tem muitas que deixava cortar. Porque não tinha condições.
Il y avait beaucoup de familles qui ne pouvaient pas payer la lumière, alors la lumière était coupée.
Agora, graças a meu Deus,
maintenant, la lumière et le gaz.
Donc elles sont bien contentes avec Lula, elles l'aiment beaucoup.
Quand elle entrou no mandato, ele mudou muito, né, o Brasil.
Il a changé bien le Brésil.
Ajudou muito as famílias, né?
Famille.
Para mim, foi o melhor presidente.
Ça a été le meilleur président.
Eu acho bonito dele porque ele é um presidente, mas gosta das pessoas humildezinhas.
Ele é um presidente, mas ele ama o povo, o pequeno.
Os outros não gostam do povo.
Les outros n'aiment pas le peuple.
Os outros massacram a pobreza.
Les autres massacrent la pauvreté.
É tanto que eu vou votar na mulher.
Je suis content de Lula et je vais voter sa candidate.
Pour Dilma.
É, Dilma.
D'abord, la bourse famille est une véritable aide. C'est un complément au revenu familial.
Le père Roberto, directeur de la coopérative.
Ensuite, le critère pour la recevoir, c'est de mettre ses enfants à l'école pour qu'ils étudient au lieu de travailler. Et ça, ce sont deux points très positifs.
Parce que avant, les enfants étaient dans la rue, ils n'étaient pas à l'école.
Avant, les enfants, surtout ceux des classes les plus pauvres, devaient aider leurs parents pour apporter un peu d'argent à la maison. Ils faisaient des petits boulots. Vous savez, beaucoup de familles qui ne reçoivent pas la bourse ont toujours cette habitude de demander à leurs enfants de les aider à accroître leurs revenus en travaillant, parce que ceux qui étudient ne rapportent pas d'argent.
Donc c'est une bonne mesure. Est-ce qu'il faudrait l'amplifier là?
Cette bourse famille est une mesure qui, à mon sens, n'est pas suffisante. Il faudrait que le gouvernement, en parallèle, apprenne aux familles à s'autogérer et à s'autosuffire, à s'organiser pour travailler, par exemple en coopérative, afin qu'elles ne soient pas dépendantes de la bourse famille. Pour vous donner une idée, il y a des familles pauvres qui reçoivent cette bourse et qui, du coup, font plus de bébés. Et en ce sens, ce n'est pas bon, car cela crée une dépendance à l'égard d'une mesure qui pourrait être supprimée par un autre gouvernement.
Le père dominicain Hilton Japiasu, qui travaille dans les favelas, se veut plus optimiste.
Dans tous les pays, ceux qui reçoivent l'argent, ce n'est pas l'homme, c'est la femme. Hein? Parce que la femme va acheter du donner à manger à ses enfants. L'homme va au bar, au bistrot. C'est ça, une sagesse. Ça correspond à 12 millions de familles. Et il a amélioré la qualité de vie des gens. Il a faire sortir de la pauvreté, de la misère, 40 millions à peu près de personnes. C'est pas mal dans 4 ans, dans ce deuxième. Non, mais dans le deuxième mandat. Parce qu'avant, il avait, on s'appelle l'héritage maudit. On était un pays endetté. On était dirigé par FMI. Il a tout liquidé, cette chose. C'est énorme. Tu vas dans toutes les blés de l'intérieur, les gens mangent. Ils ne mangeaient pas avant. Maintenant, ils mangent. Il a distribué l'électricité dans tous les recoins du pays, même dans l'Amazonie. Elle est là, dans ce petit frigo.
Il y a l'électricité maintenant.
L'électricité, partout. Partout. Qu'est-ce que tu veux? Ça, ça coûte. Et en même temps, il crée la compte pour sortir de la bourse famille. Apprendre des métiers, commence à faire tout ça partout. Mais il faut prendre du temps. Ça commence autre chose. On n'a pas encore de main-d'œuvre qualifiée. On manque de main-d'œuvre. Investissement de l'éducation, on va faire la cueillette 10 ans après. C'est pas le jour suivant, c'est pas ça.
Du temps, en effet. Malgré ses efforts, le gouvernement Lula n'a pu améliorer réellement la situation de l'éducation dans un pays où l'illettrisme continue à faire des ravages. Les enfants ne vont à l'école que par demi-journée, faute d'un nombre suffisant d'enseignants. Manque de professeurs, des enseignants démotivés, mal formés, mal payés. Seuls 12% des jeunes entre 18 et 24 ans entrent à l'université et la plupart ont été scolarisés dans des établissements privés de meilleure qualité. Le gouvernement a pourtant tenté, par le biais de bourses, notamment par l'introduction de quotas, d'ouvrir les facs à la société brésilienne, mais sans succès. Il a aussi créé nombre de lycées techniques, mais réformer l'éducation dans un pays aussi vaste et décentralisé, où l'enseignement relève principalement des compétences locales, s'apparente à une tâche herculéenne. L'écrivain Godofredo de Oliveira Neto, qui fut chargé du programme des bourses pour l'université dans le premier gouvernement Lula, regrette aussi la solitude du chef de l'État dans ce domaine.
Je pense que la société brésilienne, de manière générale, n'a pas pris les dossiers école comme étant quelque chose de très important pour le pays. Malheureusement, la classe moyenne, par exemple, elle ne descend pas dans la rue pour dire que les professeurs sont mal payés. Elle n'a pas aidé le gouvernement là-dessus. Elle n'a pas compris que c'est une cause noble pour le développement du pays.
Ça, parce qu'on a besoin quand même de la pression de la société civile pour faire avancer les choses ici.
Ah oui, absolument, oui. Sinon, le Congrès qui vote les choses se dit « Oh, personne ne s'intéresse », et tout. C'est ça, hein, c'est le jeu du Congrès.
L'éducation, c'est un des points noirs qui reste pour vous?
Je pense que si on voit à long terme, les choses, la flèche est pointée dans la bonne direction. C'est-à-dire que l'université forme plus de personnes qualifiées, il y a un nombre d'écoles techniques énormes créées, mais c'est long. Moi, je pense que ça a été beaucoup plus long que le gouvernement le pensait. Par exemple, on importe maintenant des ingénieurs, alors qu'il y avait des ingénieurs au chômage, plein. Maintenant, ils sont importés de pays voisins, ou de Chine, ou dans la construction navale, alors que c'était, on voyait des ingénieurs partout, sans travail.
Donc il y a un manque de main-d'œuvre qualifiée.
Ça, c'est dramatique. Et la croissance a quand même entraîné des vides autour de main-d'œuvre qualifiée.
Une croissance en effet éblouissante, plus de 7% cette année, boostée par une demande intérieure qui ne se dément pas. Partout dans le pays, la construction est en plein boom, comme ici, dans le Nord-Est. Alors ici, on voit, il y a beaucoup de maisons qui sont en train d'être construites, des chantiers, des grandes maisons, des plus petites maisons. Qu'est-ce que c'est que ce programme, Albert?
Il s'agit d'un programme du gouvernement Lula appelé PAC, Programme d'accélération de la croissance. De ce programme consta aussi un programme d'habitation populaire, estimé à 1 million. Alors c'est répandu partout le Brésil, partout le pays, ici aussi. Le prochain gouvernement promet de faire 2 millions d'habitations. Mais c'est un peu loin de répondre à toutes ces demandes.
Il y a un nouveau programme qui s'appelle « Minha Casa, Minha Vida ». Ma maison, ma vie.
Ana Brito, professeure d'architecture à Rio.
Donc c'est un programme d'accès au logement. Ça, c'est important parce que c'est une tranche de revenus qui était exclu de n'importe quel programme d'accès au logement. Ça veut dire que pour ces gens-là, il n'y avait aucun moyen d'accéder au logement. C'est ça qui fait l'augmentation des favelas dans les grandes villes, parce que ces gens-là, ils n'habitent pas de cette façon-là parce qu'ils veulent, mais simplement parce qu'ils n'ont pas le moyen d'accéder à la maison dans le marché formel de l'habitat. Et donc là, les programmes, ils ciblent sur ces tranches de revenus-là. Donc ça, c'est important. Mais ils sont tous bâtis dans la périphérie lointaine, où on n'a pas d'accès à l'assainissement. Enfin, les systèmes de transport, ils sont précaires. Donc, ces gens-là, ils vont prendre 4 heures pour arriver au travail, 4 heures pour revenir. Donc, pourquoi pas faire des petits logements, par exemple, dans les centres-villes, dans les zones du centre-ville qui sont vides, où il y a énormément de friches industrielles, par exemple, où on pourrait profiter de ces terrains-là pour faire des logements sociaux. Mais ça, il faut penser à l'avance, il faut discuter, il ne faut pas les faire un an avant les élections pour faire des Dilma. En fait, la pub de Dilma, c'est la mère du PAC. En fait, on dit, on va voter pour Dilma, parce que Dilma, c'est la mère, enfin, celle qui a conçu les PAC et les programmes Ma Maison, Ma Vie. Donc, c'est évident qu'il y a un intérêt politique derrière. Et c'est compliqué, et ça, c'était pas dans la base avant, dans la discussion avant, de politique de logement et de politique pour l'assainissement du PT d'avant. Quoi. C'est ça. Le PT a quand même changé en étant au gouvernement.
Un manque de planification donc, mais l'apport de Lula se situe peut-être à un autre niveau. L'anthropologue Rubem César Fernandez s'est penché sur le cas Lula.
Ce que Lula a fait, c'est quelque chose d'important dans l'histoire du Brésil. L'histoire du Brésil a toujours parlé des ouvriers, des travailleurs. Dans les temps du populisme de Getúlio Vargas, c'était un travailleur. Il disait « travailleur du Brésil ». Si tu ne travailles pas, tu n'es pas brésilien. Tu es vagabond, tu mérites la prison. Tu devais être tapé dessus parce que la citoyenneté, c'était le travail. Hein? C'était un peu presque fasciste dans les temps, les années 30. C'était la conception de la nation du travail. Et alors là, je crois que Lula, malgré qu'il a été formé par les syndicats des travailleurs, surtout métallos, mais il a quand même, avec les programmes de soutien pour les familles, disons, pauvres, misérables du pays, il a mis les points sur les familles qui sont un peu en dehors du travail. Et là, ça a fait une immense différence pour la vie d'inclusion d'une population plus pauvre dans les marchés. S'il faisait ça sans l'appui des banques, des finances, il était mauvais. Mais il a réussi à avoir l'appui des banquiers et des marginaux misérables. Là, c'est Lula, je crois qu'il a une qualité personnelle importante. C'est un type qui est très pragmatique, il est flexible, il n'est pas d'ordinaire, pas du tout. Mais c'est assez opportuniste du point de vue de chercher les opportunités, les occasions. C'est un peu la mentalité syndicaliste dans son mieux, n'est-ce pas, d'être toujours là pour gagner un type quelque chose, hein, qui bataille toujours là pour petits gains. C'est pas la révolution, c'est les petites victoires qui font quand même un certain chemin.
Le miracle Lula et après, c'est le thème de votre reportage Marie-Pierre Véraud. Vous intervenez comme vous le souhaitez jusqu'à 19h donc, magazine de la rédaction spéciale Brésil en cette veille d'élection à présidentielle avec Annie Gasny en direct du Brésil et dans ce studio le politologue Stéphane Monclerc. Je vous propose de nous arrêter d'abord un instant sur le pragmatisme de Lula qui semble beaucoup mieux fonctionner que les promesses de grand soir. Il faut rappeler que Lula s'y est repris quand même à plusieurs reprises avant d'accéder à la présidence. La recette du miracle Lula, comme on le dit, c'est ça, Stéphane Monclerc, c'est ce pragmatisme.
Alors, ce pragmatisme, comme il a été dit dans votre reportage, vient de sa trajectoire syndicale. C'est là qu'il a appris l'art de la négociation, l'art de la conviction. C'est là aussi où il a su devenir cet extraordinaire orateur et savoir convaincre des foules. Cela dit, il est d'autant plus pragmatique qu'il n'a jamais été au contact de l'idéologie. Il suffit de lire les interviews qu'il donne lorsqu'il devient responsable syndical et dans les années suivantes, il patauge complètement dans les idéologies qui étaient alors disponibles. Il n'a pas d'attirance particulière, d'ailleurs, sur ce terrain. Ce n'est pas du tout un doctrinaire. Donc, aussi bien intellectuellement qu'à travers sa trajectoire professionnelle puis sa trajectoire politique, il a fait du pragmatisme une vertu. Il la met en œuvre une fois devenu président et de toute façon, il n'avait pas le choix. C'est-à-dire que tous les chefs de gouvernement se doivent d'être réalistes et d'être pragmatiques.
Mais comment fait-il précisément, comme on vient de l'entendre, pour réussir à concilier les banquiers et les marginaux. Je reprends le mot de l'interrupteur.
Ce n'est pas très difficile. D'un côté, on fait une politique monétaire qui va rendre la monnaie locale extrêmement forte. On va favoriser le dynamisme économique, notamment les investissements étrangers directs. On ne privatise plus parce que l'essentiel a été privatisé. Le gros morceau qui reste, c'est Petrobras. Et ça, culturellement, c'est impossible vis-à-vis de la population brésilienne. On laisse les profits se réaliser à travers tout un ensemble de mesures fiscales. Et puis, d'un autre côté, on met en œuvre tout un ensemble de politiques publiques qui visent à réduire les inégalités sociales et à réduire la pauvreté. Et sur ce point-là, il y est arrivé. Donc, il arrive à satisfaire, je veux dire, les deux extrêmes de la population, mais aussi les couches moyennes. Les couches moyennes qui, finalement, catholicisme aidant, ou culture catholique aidant, se félicite de cette réduction des inégalités et puis qu'elles s'enorgueillissent des progrès du Brésil à l'international et de voir le Brésil ainsi rayonner. Elles se mettent elles aussi à soutenir Lula.
Annie Gasnier, en direct du Brésil, votre sentiment là-dessus ?
Ben écoutez, oui, le pragmatisme de Lula, c'était tous les jours au pouvoir, hein, parce que bon, il faut voir aussi que la gauche latino-américaine était sous le choc encore ici au Brésil, même en 2002, c'était le renversement de Salvador Allende, puisque beaucoup de Brésiliens s'étaient réfugiés au Chili. Donc leur grande peur, ils le disaient, c'était peut-être que ça se termine très mal. Donc Lula, effectivement, n'est jamais allé à l'affrontement, il n'est jamais allé jusqu'au bras de fer, il a toujours reculé ou négocié quand il fallait. Et d'ailleurs, juste avant son élection, il y a eu quand même une espèce de tempête sur les marchés financiers, un peu de chantage sur le Brésil. Et au mois de juin, donc pratiquement 6 mois avant d'être élu, il rédige la lettre au peuple brésilien où finalement il admettra qu'il va recevoir l'héritage économique du président Cardoso, social-démocrate, et qu'il n'y touchera pas.
Marie-Pierre Véraud.
Oui, puis il y a aussi peut-être une obligation d'être pragmatique au Brésil, puisque pour gouverner, faire passer ses lois, il faut nouer des alliances avec tout un tas de partis, parfois des alliances contre nature, et donc avoir cette culture du compromis.
Oui, Lula l'avait déjà développé au sein du Parti des Travailleurs, le parti qu'il a cofondé, qui est un parti composé de courants et de tendances, qui a une culture de débat très ancienne et dans lequel il y a des affrontements très sévères. Il a appris le pragmatisme, également le pragmatisme politique à travers la vie partisane. Et une fois au gouvernement, il prend en compte la réalité, il ne cherche pas à la fuir. Et la carte aux Brésiliens qu'il écrit 6 mois avant son élection de 2002 est également soutenue par tout un ensemble de dirigeants de son parti qui l'incitent à signer un tel texte. C'est pas nécessairement lui qu'en a l'initiative.
Alors, le pragmatisme de Lula, pour les uns nombreux, Lula a su évoluer en réconciliant les inconciliables, mais pour d'autres, eh bien, l'ancien syndicaliste a trahi. C'est le sentiment, par exemple, du mouvement des sans-terres. Dans un pays qui est le deuxième au monde pour la concentration des terres, les paysans attendent encore leur réforme agraire, Marie-Pierre Véraud.
Oui, et le mouvement des sans-terres continue donc à occuper sauvagement des terres non exploitées afin qu'elles puissent être attribuées à ces paysans qui souhaiteraient les travailler. Et c'est ce qui arrive parfois après de longues négociations avec le gouvernement. Et je suis allée dans l'une de ces exploitations obtenues par la lutte, par le mouvement des sans-terres. Nous sommes ici dans le nord de Rio, dans un assentamento du mouvement des sans-terres qu'ils ont baptisé Terre Promise. Et c'est Cosme Miranda qui nous fait visiter les lieux.
Ici, il y a de la patate douce.
Ici, il y a de la patate douce.
Et la meilleure partie nossa, ou seja, de ce pedaço aqui, é empim.
Et la plus grande partie, donc, c'est le manioc.
É um coletivo de 7 pessoas que trabalham juntos.
C'est collectif, c'est 7 personnes qui travaillent ensemble sur ces terres-là.
Uhum. Ali atrás, plantamos um pouco de feijão de corda.
Derrière, um peu d'haricot.
Lá do lado de lá. Boa tarde.
Boa tarde.
A gente morava assim, de barraco. A gente ali, né? A gente morava assim, de barraco.
On habitait comme ça, dans des...
Une petite un petit baraquement en bois, hein, très précaire, effectivement, avec une bâche comme toi.
Tá, né? Tá limpinho, né? Tá bom, obrigado. A rua que nós teríamos que ter é isso aqui que vocês estão vendo aqui.
La rue qu'on devait avoir, c'est ce chemin qui passe là.
Petit chemin de terre,
ouais.
Se você quiser vir de carro, tenta a sorte. Si vous voulez passer
en voiture, essayez, vous allez voir. Après, ça me fait encore pire. On voit passer des vaches, hein, les petits veaux.
On était 75 familles au départ et aujourd'hui nous ne sommes plus que 61. La promesse de l'État, c'était 10 hectares par famille. Au bout du compte, on a 6 hectares par famille. Donc on a perdu des terres, on a perdu des familles. L'État fait tout ça pour que les gens se découragent et renoncent. Même avec des documents signés, ils ne respectent pas sa parole. Quand on est arrivé, il n'y avait rien. Tout ce que vous voyez là, les infrastructures, l'irrigation, les routes, les écoles, les maisons, tout ce que tu vois ici, c'est nous-mêmes qui l'avons fait de nos mains avec notre argent. Les vents soufflent tellement fort ici que c'est invivable. Il y a déjà beaucoup de baraques qui se sont écroulées, alors on a dû nous-mêmes améliorer tout ça pour le confort et la sécurité de nos enfants. Donc de tout ce que le gouvernement nous avait promis, rien. Et voilà donc que les élections arrivent et on nous envoie un tracteur et du calcaire pour amender les sols. Mais ça, c'est ridicule. Pour amener le calcaire ici, il faut une route. Mais il n'y a ni rue, ni maison, ni lumière. Tout ça, ça vient et c'est de la poudre aux yeux.
L'amertume est perceptible. Les militants du mouvement des sans-terre ont-ils rejoint les rangs des déçus de Lula ? Question posée à leur représentante à Rio, Mariana Duque.
Ce n'est pas une question de déception, c'est une question de choix. Le gouvernement a fait le choix d'abandonner des revendications historiques comme la réforme agraire, c'est un fait. Je vais vous dire comment se présente l'agriculture aujourd'hui au Brésil. On a un modèle de monoculture tourné vers l'exportation. Ce sont de grandes exploitations où l'on plante la même chose, principalement du soja et de la canne à sucre. Ce sont de grandes exploitations, il y a donc une grande concentration des terres avec un usage intensif de pesticides. Aujourd'hui, le Brésil est champion du monde pour la consommation de pesticides. 1 milliard de litres par an, c'est beaucoup. En clair, nous voilà avec cette exploitation intensive, du travail forcé, quasiment esclave, avec la déforestation et toutes ces atteintes à l'environnement. Mais tout cela, ce ne sont pas les grands propriétaires qui le déterminent. Ce modèle est aujourd'hui déterminé par le grand capital, spécialement le grand capital international, les Monsanto, les Cargill, les Bayer. Et nous avons un autre problème très grave au Brésil, c'est que l'on ne sait pas exactement combien de terres ont été achetées par des étrangers. Donc, il y a un problème très sérieux de souveraineté nationale. Nous devons nous rendre compte qu'il y a aujourd'hui la possibilité de réorganiser les forces sociales, il faut bien le dire. La réforme agraire aujourd'hui, aucun candidat ne la soutient. Il n'y a aucun projet pour les travailleurs des campagnes. Cela va donc nous emmener dans un processus intensif de lutte pour notre peuple. Et ce sera le lot de tout le monde, des mouvements sociaux, des travailleurs urbains et des sans-terres dans les campagnes.
À quelques milliers de kilomètres de là, à João Pessoa, sur la côte nord-est du Brésil, le sociologue Alder Julio Calado ne pense pas autrement. C'est un dimanche après-midi que je l'ai rencontré sur le campus de l'université où il donne des cours de militantisme à des étudiants avant de les envoyer organiser la lutte dans les communautés. Alder Calado qui regrette le temps béni des mobilisations.
Aux années 80, il y avait beaucoup de mobilisations. Même les PT, les partis de travailleurs, la CUT, la centrale unique des travailleurs, elles ont été un mouvement au début. Jusqu'aux années 80 à peu près, elles faisaient des mobilisations. Il avait des plans de lutte partout, dans la campagne et aussi dans les villes. Mais ces militants, je crois, à peu près, j'estime, ils étaient environ 12, 13 000 des hommes, des femmes dans les luttes sociales, en travaillant avec le peuple. Ces gens, peu à peu, ont abandonné ces champs de lutte. Ces militants qualifiés, très qualifiés et engagés, et ils ont abandonné toutes ces luttes et ces mouvements aussi pour joindre les gouvernements. dans la sphère fédérale, dans la sphère des États et aussi des communes, par exemple. Alors là, c'est une perte très forte, très forte. Et cette démobilisation vient de ce fait.
Lula aurait donc réussi à étouffer les mobilisations sociales en embrassant les militants les plus actifs et en les attirant à des postes de responsabilité. Mais s'il y a moins de lutte, c'est peut-être aussi, comme s'en amuse l'écrivain Silviano Santiago, parce que les Brésiliens ont gagné avec Lula un espoir en l'avenir à toute épreuve.
Cette fin qui définissait le tiers-monde, elle ne définit plus le Brésil. C'est ça qui est intéressant. Et aujourd'hui, la situation, je ne dirais pas qu'elle est patente, qu'elle est extraordinaire, mais elle est beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille. C'est-à-dire, on croit qu'on a un avenir. Et ça, c'est superbe pour un pays du tiers-monde. On parle, par exemple, du pétrole. Et quand on parle du pétrole, quelle est la chiffre qu'on donne? C'est que dans l'année 2020, ça se passera d'effet extraordinaire, c'est-à-dire le Brésil sera un pays richissime, etc., etc. C'est cette tranquillité qui m'éblouit aujourd'hui. C'est-à-dire que l'avenir était toujours chaos, était toujours mais c'était toujours quelque chose qui n'était pas rassurante. C'est quelque chose à inventer. Et aujourd'hui, on a l'impression que l'avenir est inventé à chaque jour. C'est-à-dire, c'est l'image même qu'il passe de la Petrobras. Petrobras, vous savez, non, c'est la compagnie de pétrole brésilienne statale. Et c'est l'image que la Petrobras passe aux gens. C'est-à-dire, elle s'invente à chaque jour. Elle découvre le pétrole, je ne sais pas où, ensuite dans d'autres États du Brésil. Et finalement, maintenant, ça n'est pas des salles. Quelle image même de l'utopie, parce qu'il se peut qu'on peut se passer du pétrole d'ici quelques dizaines d'années. Et donc, cette découverte est une découverte inutile. Mais aujourd'hui, elle est la découverte du siècle.
Voilà, l'optimisme qui règne au Brésil, il faut dire qu'avec cette découverte du pétrole, ça aide quand même sacrément. Un Lula donc qui porte comme jamais les espoirs des pauvres, sans se mettre à dos les riches, et même en les persuadant qu'ils vont pouvoir s'enrichir encore plus si les pauvres se mettent à consommer. On évoquait tout à l'heure son pragmatisme. Cela dit, Stéphane Monclerc, il y a quand même des secteurs où Lula frôle la schizophrénie, non? On a vu avec les centaires qui attendent encore la réforme agraire, et dans le secteur agricole, Lula avait deux ministères. Un proche de l'agrobusiness et un proche des centaires.
D'abord, l'existence de ces deux ministères existe depuis le milieu des années 80, donc ce n'est pas une nouveauté.
C'est pas une nouveauté de là.
Mais il est vrai que sous Lula, les arbitrages ont toujours été faits, l'essentiel d'entre eux ont été faits en faveur du ministère de l'Agriculture et non pas en faveur du ministère de la Réforme agraire ou plus exactement de l'agriculture familiale. C'est le cas par exemple sur le dossier OMG. C'est le cas
OGM,
pardon. C'est le cas également de tout un sur le dossier de la déforestation, etc., etc. Ce que je voudrais dire, c'est que la réduction de la pauvreté et la réforme agraire étaient les deux étendards du Parti des travailleurs dans les années 80. Et après 8 ans de gouvernement Lula, force est de constater qu'on n'a pas vu de réforme agraire. La politique en ce domaine du gouvernement Lula ressemble beaucoup à celle qui a été faite dans les années Cardoso. Le nombre de familles à qui des terres a été donné est sensiblement égal. Ce qu'il y a eu de plus, c'est des aides à l'installation. Ça a été fait un peu plus massivement. Cela dit, on est loin de ce qu'il conviendrait de faire. Mais attention, l'agriculture familiale, elle ne fait pas vivre le pays. Elle peut aider au pays à se nourrir, mais ce n'est pas elle qui peut favoriser une croissance économique forte. Il faut de l'agrobusiness. C'est lui qui est responsable de l'excédent, enfin, c'est lui qui est en grande partie responsable de l'excédent de la balance commerciale brésilienne. C'est lui qui est responsable de tout un ensemble de points de croissance. Donc, il faut être réaliste de ce point de vue-là. Quant à la réduction des pauvretés, tout un ensemble d'éléments dans vos reportages laissaient penser à une espèce de mythe et montre bien tout le profit politique que les gouvernants peuvent tirer de l'écart qu'il y a entre ce que les choses sont et ce que les gens pensent qu'elles sont.
C'est-à-dire que Lula manie très bien la communication.
Ah, parfaitement. Prenons par exemple l'exemple de Bolsa Familia. Il y a 11 millions qui en bénéficient. C'est une goutte d'eau dans le budget de l'État, ce programme de transfert d'allocation. Ce n'est pas grâce à Bolsa Famille que les inégalités ont disparu. Que les inégalités ont été réduites. Il y avait 35% de pauvres dans la population en 1999. Il y en aurait à peu près aujourd'hui 25%. Ça fait 20 millions de personnes, un peu plus de 20 millions de personnes, qui sont sorties de la pauvreté.
Sur une population d'à peu près 192 millions, c'est ça ?
Exactement. Seulement... Lorsqu'on regarde les statistiques de façon fine, c'est pas dû à Bolsa Famille. C'est dû essentiellement à l'amélioration de la consommation des ménages. De même que la croissance est due à 80% à l'amélioration de la consommation des ménages. Et la consommation des ménages, elle est elle-même due à l'augmentation du salaire minimum et à des effets de l'augmentation du salaire minimum sur les minimums vieillesse. De sorte que la population se trompe de croire que toutes les améliorations sont dues à des programmes de transfert d'allocation de ressources. C'est dû, en fait, à des éléments vertueux de macroéconomie, à commencer par de l'augmentation du pouvoir d'achat à travers le salaire minimum. Seulement, la communication du gouvernement, elle est sur Bolsa Famille, elle est sur les programmes Lumière pour tous, etc. Et c'est une communication qui tente d'imputer au président Lula et à son gouvernement tous les bienfaits de la croissance, tous les bienfaits de ces politiques. Et la population est reconnaissante. Elle s'est mise à voter massivement pour Lula en 2006. Et aujourd'hui, de nouveau, elle vote massivement pour Lula, pour Dilma en 2010.
Marie-Pierre Véraud.
Cela dit, c'est quand même Lula qui a aussi obtenu ce doublement du salaire minimum qui a permis avec l'indexation des pensions.
Il était si bas que ce n'était pas très difficile de l'augmenter. Et puis les conditions de la croissance le permettent. Lula a eu énormément de chance lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Sa chance a été que l'économie mondiale allait bien. L'austérité monétaire qu'il a appliquée à son pays aurait été fatale si la conjoncture internationale n'avait pas été aussi bonne. Et une fois que les indicateurs reviennent au vert et que la situation monétaire était assainie, alors on peut faire les politiques publiques qu'il a faites. Il a eu beaucoup de chance.
Annie Gastier, je rappelle que vous êtes en direct du Brésil. Le titre du reportage qu'on a écouté tout à l'heure, c'est « Le miracle Lula et après, quels sont les chantiers qui attendent le successeur de Lula, qui sera donc peut-être Dilma ?»
Mais écoutez, il y en a beaucoup, hein, parce que c'est vrai que si le président disait toujours qu'il ne pouvait pas tout faire en 8 ans, il ne l'a pas fait. Il reste donc beaucoup de dossiers, tant dans le domaine social pour Dilma Rousseff que dans d'autres domaines. Parce que, par exemple, la croissance, c'est vrai, est très grande et parfois même au bord de la surchauffe. Et les infrastructures, par exemple, du pays sont encore totalement inadaptées aux grands chantiers sidérurgiques qu'on va faire un peu partout, ou bien sur ce pétrole qu'on prétend aller chercher à plus de 7000 mètres au fond de la mer. Il y a aussi des réformes peut-être incontournables. Lula a dit qu'il voulait maintenant être le champion de la réforme politique pour réorganiser un peu et que la représentation finalement des gens au Congrès ne soit pas aussi lamentable que maintenant. Donc il reste beaucoup à faire. Et là, Dilma n'aura pas cette espèce d'adoration populaire pour faire passer des réformes tant bonnes que difficiles. Et ça sera très intéressant d'étudier ça.
Alors, sur le plan politique, Stéphane Moncler, comment a évolué le Parti des Travailleurs qui a été créé par Lula ?
C'était un parti très différent des autres. C'était pas un parti d'élus, c'était un parti de militants, très actifs, dont beaucoup venaient des couches populaires et venaient du secteur ouvrier, du secteur de la santé, mais des employés d'hôpitaux. Dans les années au fil des années 80 et encore dans les années 90, c'est un parti qui s'est classe moyennisé du point de vue du recrutement de ses militants, mais aussi de son personnel dirigeant. Et puis dans les années 2000, on assiste à quelque chose de tout à fait étonnant, c'est la parlementarisation de ses dirigeants. Il y a de plus en plus de de dirigeants qui sont parlementaires. Et donc, la vie du parti dépend un peu du succès de la politique du gouvernement Lula. Et puis, il y a quelque chose encore plus important. L'arrivée de Lula, et ça a été suggéré dans plusieurs reportages qu'on a entendus tout à l'heure, l'arrivée de Lula à la présidence de la République s'est accompagnée de la nomination dans des milliers de postes de l'appareil d'État de gens du PT, c'est-à-dire de cadres intermédiaires, pas uniquement les dirigeants locaux. De sorte que il s'est opéré tout un ensemble de cooptations, et à travers cette cooptation, Lula, qu'il le veuille ou non, a acheté le silence de ses cadres qui maintenant se mettent à critiquer beaucoup moins le gouvernement qu'il aurait pu le faire.
Lula, donc, si je vous suis bien, qui a muselé son propre parti, Annie Gasnier, vous iriez jusqu'à dire que Lula a tué le mouvement social au Brésil, d'une certaine façon?
En tout cas, il l'a endormi pendant toutes ces années, parce que c'est vrai qu'il y a eu très très peu de grèves, très très peu de mouvements sociaux contre lui. D'ailleurs, au début de son mandat, il avait dit hein, « s'il y a un problème, venez m'aider en gros à manifester pour que je puisse faire passer des réformes ». Les syndicats étaient un peu endormis, il y a eu beaucoup de cooptations aussi au sein du gouvernement, et c'est vrai que c'est un peu ce qui l'a aidé à gouverner pour tout le monde au nom des pauvres.
Une question de Marie-Pierre Véraud.
Oui, il a tout de même décidé, alors c'est peut-être un bilan démocratique un peu faible, mais de ne pas se représenter alors qu'il aurait pu faire modifier la Constitution, que ses partisans l'appelaient à le faire, qu'il a une popularité telle...
Ça aurait été très risqué politiquement de faire ce coup-là.
En tout cas, dans la région, c'est un bel exemple de respect de la démocratie dans un pays aussi
oui,
où
non, ça aurait été, il y a pensé,
présent.
Ça a été très... plus que pensé, mais ça aurait été trop risqué. Constitutionnellement, c'était pas possible. Il fallait changer la Constitution. C'était très coûteux politiquement. Et puis, je voudrais dire quand même un mot peut-être de conclusion. Le Brésil, aujourd'hui, reçoit les palmes de la presse internationale de référence et les journalistes semblent adorer Lula. Il y a des pays qui ont un taux de croissance plus élevé et qui arrivent à réduire encore plus vite les inégalités sociales. Seulement des 4 BRICS, le Brésil est le seul qui soit politiquement présentable à des démocrates. Pourquoi ? Parce que le Brésil, des 4 BRICS, est le seul pays démocratique. La Chine ne l'est pas. Si, il y a l'Inde, bien sûr. Mais l'Inde est traversée de problèmes ethniques et de violences que ne connaît pas le Brésil. Donc le Brésil est très fréquentable, d'où une certaine admiration. Pour autant, son bilan économique et social n'est pas aussi grand que cela.
Annie Gasnier, un mot de conclusion également avec vous. Et peut-être cette question, est-ce qu'il y a encore un espace politique pour une alternative au lulisme au Brésil ?
Oui, je pense que simplement l'opposition va devoir beaucoup s'organiser, se réorganiser, se poser beaucoup de questions et faire des propositions. Parce qu'on a parlé pendant des années de personnages comme ça qui pouvaient arriver et qui pouvaient être en concurrence avec un candidat du Parti des Travailleurs. Et malheureusement, José Serra n'a pas de véritables propositions. Il se met dans les pas de Lula et sa personnalité n'a pas suffi à changer le scrutin.
Lula qui reviendrait au pouvoir en 2014, très très vieux, une fois que ça lui serait possible de nouveau, c'est de la science-fiction ça ou pas ?
Écoutez, c'est ce qu'on dit beaucoup ici, et même ses plus grands partisans. Alors ils ont fini par me faire douter, alors que moi je ne le crois pas.
Annie Gasnier, Stéphane Monclerc, merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté l'invitation de France Culture. Le miracle Lula et après, reportage signé cette semaine, Marie-Pierre Véraud, à la réalisation Annie Brault, à la technique Francis Pascal et Vincent René.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 2 octobre 2010. Vous pouvez la réécouter en ligne sur le site de France Culture à la page des nuits et sur l'application Radio France.